Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec ma femme d'aujourd'hui, eh bien, on parle de relations humaines, on parle de positionnement humain et on parle de danse humaine. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Erim Ghelleb, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Erim?
Ah, alhamdoulilah, très bien.
Alors, Erim Ghelleb, vous êtes une scientifique qui n'a pas peur de repousser les barrières du pragmatique, en quelque sorte.
Waouh.
C'est vrai, ça?
C'est très joli ce que vous dites. Les barrières du pragmatique, c'est-à-dire du scientifique, vous
parlez. Tout à fait, absolument.
Vous parlez de passer du scientifique aux sciences humaines et à la... aux sciences humaines.
Exact.
C'est ce que vous voulez dire.
Tout à fait. Vous êtes dentiste de formation, vous êtes dentiste, mais vous êtes aussi dans l'hypnothérapie, vous êtes dans beaucoup de choses, en fait, qui sortent de ce cadre purement scientifique, j'imagine, de la jeune femme que vous étiez, c'est-à-dire celle qui a fait un bac scientifique, qui a fait des études de médecine, c'est carré, c'est une autoroute. Et puis, vous n'avez pas eu peur de sortir de l'autoroute à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, d'abord, c'est un élan de vie personnel. Je pense que j'ai été toujours curieuse des gens, de la connaissance de soi, de comment fonctionnent les gens. Et dans ma formation et dans mon exercice professionnel de dentiste, la relation très proche avec les gens, d'un corps à corps, pratiquement, on travaille à 30 cm des gens, dans une zone très intime, la bouche, eh bien, il y a des choses qui permettent de... Quand on a cette curiosité de l'humain, eh bien, d'aller chercher plus loin ce que les gens sont, la relation à la peur, la relation aux soins. Et dans cette proximité qui est quelquefois... qui peut être quelquefois dérangeante et gênante.
Mmh. Vous êtes aussi metteur en scène?
Oui, je suis comédienne.
Vous êtes comédienne, exactement.
Je suis comédienne et metteur en scène, oui, tout à fait.
Est-ce que vous aimez votre métier? C'est-à-dire, de vous à moi, maintenant. Est-ce que vous avez un amour profond pour votre métier?
Oui, j'aime mon métier parce que j'aime les gens. Mon métier n'est pas de soigner une dent. Mon métier n'est pas d'hypnotiser quelqu'un pour le fun. Si, je peux le faire. Mon métier, il est d'accompagner les gens, de quelque manière que ce soit. Mmh. Alors, que ce soit dans le soin dentaire, que ce soit dans le soin tout court, le care, que ce soit dans l'accompagnement psychothérapeutique en hypnose, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans la relation au théâtre avec les autres comédiens et avec soi-même. Mmh. Oui, mon métier, c'est un métier profondément humain. Même si il semble comme ça un métier...
froid, parfois.
Oui, tout à fait. Avec des instruments, avec des choses agressives tout de suite. On a des enfants il peut m'arriver d'avoir des enfants qui arrivent, qui ont 3 ans, 4 ans, et à qui, dès qu'ils sont installés sur le fauteuil, on leur dit « n'aie pas peur ». Ça veut dire « tu devrais avoir peur » et qu'on leur rassure de cette manière. Effectivement, c'est un métier qui peut sembler froid, difficile, agressif. On a des instruments qui sont agressifs, mais nous sommes des humains. Et ces instruments peuvent être agressifs, mais peuvent être aussi très soulageants. Mmh. pas si c'est un mot qui se dit, quand on les utilise à bon escient. Mm. Quand vous avez une rage de dents pendant toute une nuit, et ben vous êtes très contente d'aller voir un dentiste qui va vous faire une anesthésie pour vous calmer et vous soulager avec ces instruments qui font du bruit, de l'air, de l'eau, et qui sentent pas, qui sentent dans les produits, qui sentent le dentiste. Mais c'est fait pour une raison bien précise, c'est-à-dire pour vous apporter du bien-être. Voilà.
En fait, vous mettez votre métier de dentiste dans votre approche holistique de prise en charge. Si vous n'étiez que dentiste et pas comédienne, metteur en scène, hypnothérapeute, si vous n'aviez pas ces autres approches humanistes et humaines, est-ce que vous auriez aimé votre métier partant en fait de la femme que vous êtes aujourd'hui, bien sûr, parce que là, on ne remet pas en question du tout un métier ou quoi que ce soit, mais c'est par rapport à votre construction de humaine à l'intérieur de vous. On peut être dentiste, on peut être menuisier, on peut être mécanicien, on peut être enseignant, et on se suffit de ce métier. Et voilà, on n'est pas dans une forme de jugement là. Mais ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est vous avez, comme on a dit au départ, poussé les barrières de ce qui est entre guillemets scientifique pour aller vers ce qui est plus humain. Vous intégrez votre spécialité dans cette approche holistique de la prise en charge de l'humain. Est-ce que vous auriez pu être une femme heureuse, Rim Rileb, sans cette diversification des méthodes et des approches humaines?
Eh bien, je pense que ça, c'est ma nature profonde, ce dont vous parlez. J'aurais fait de la menuiserie ou j'aurais fait n'importe quel autre métier, je pense que je l'aurais abordé exactement de la même manière. Avec une curiosité pour l'humain et un amour profond pour ce fonctionnement et cette vulnérabilité qui nous habite. Mm.
Mais ce qui fait de vous là, une femme accomplie, heureuse, c'est d'avoir ces différentes flèches, ces différentes cordes à votre arc.
Oui, qui peuvent s'exprimer de différentes manières.
Ouais, ouais.
Dans un corps à corps, si je puis me permettre comme ça, dans un métier où, encore une fois, on travaille très près des gens, et dans la peur, la douleur, le stress, c'est jamais cool d'aller chez le dentiste, sauf quand on a une rage de dents. C'est un moment qui n'est pas forcément convivial, et on essaye de le rendre le plus convivial. J'essaye de le rendre le plus convivial. J'aurais exercé n'importe quel métier de cette façon, ouais. En distribuant cette façon d'être à plusieurs endroits, mm-hmm. dans la relation.
Alors,
c'est très important, la relation, pour moi, les gens, la relation humaine.
Si on devait remonter le temps, vous avez fait votre choix de carrière il y a, qu'est-ce qu'on va dire, une trentaine d'années, plus ou moins ?
Oui, on va dire ça.
On va dire ça. OK. À l'époque, les carrières scientifiques étaient les plus adulées. Quand on est médecin, architecte, voilà, ingénieur, ça c'est le summum de la fierté pour les parents.
Voilà, exactement. Comme vous dites, pour les parents.
Parents, exact. Et pour les parents, et puis je pense qu'à l'époque, en fait, on ne pouvait pas faire autrement que faire plaisir à ses parents. On ne savait pas faire autrement. L'individu, l'humain, le plaisir individuel n'existait pas. Le plaisir existait dans le regard des autres.
Oui, mais il existe toujours dans le désir des autres. Mais c'est le désir des parents, le besoin d'accomplissement pour les parents aussi, beaucoup, beaucoup pour les parents, primé sur... ce besoin d'accomplissement pour soi, puis à 18 ans, qu'est-ce que vous voulez on n'est encore pas complètement terminé, on n'est pas complètement fini.
Absolument, hein, absolument, absolument. Si on devait vous situer en 2024, justement, c'est l'année de votre bac, c'est l'année de votre orientation. Aujourd'hui, on a beaucoup plus la liberté d'aller vers les carrières qu'on veut. Toutes les formations sont, quel que soit ce qu'on fait, à partir du moment où on le fait bien. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. Enfin, en tant que mère, c'est comme ça que je suis avec mes enfants. À partir du moment où on le fait bien, et on le fait avec conviction, avec passion, bien, quelle que soit la formation, quel que soit le métier qu'on a envie de faire, on ne le fait, on fait plus pour les parents. Est-ce que vous serez allé, Erim Ghleb, que vers l'humain et pas le scientifique?
Oh, je pense que j'aurais été vers l'humain, c'est certain, puisque je vous dis que c'est mon élan profond. Je ne sais pas si j'aurais été vers le scientifique. Je ne sais pas. Vers l'humain, oui, de quelque manière que ce soit. Vers le scientifique, je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à cette question parce que, comme vous dites, au moment où on devait choisir une orientation. C'était très important de choisir une orientation dans laquelle on pouvait avoir un panel de choix le plus important possible pour pouvoir réussir dans la vie, c'est-à-dire réussir dans la vie à ce moment-là, c'est-à-dire avoir un beau métier dans lequel une femme, pour mon cas, pouvait être gagner son autonomie. Mais gagner son autonomie et pouvoir, aussi. Pouvoir avoir un choix de vie de par cette autonomie.
Tout à fait. Mais en même temps, quand on pose ce genre de questions aussi, c'est à refaire, est-ce qu'on aurait choisi de la même manière? Moi, en même temps, je me dis, finalement, c'est toutes ces obligations qu'on avait avant, qu'on a dû traverser, qui font de nous les femmes que nous sommes aujourd'hui.
Ah mais tout à fait, exactement. Exactement, ce qu'on est aujourd'hui, c'est notre histoire, c'est notre parcours, c'est les freins, c'est les contraintes, c'est se poser à un moment et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire qui puisse m'apporter de la joie. C'est le contact avec les enfants qui vous questionne de manière philosophique sur ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, d'être, de faire et d'avoir aussi.
Alors, je vais vous poser une question vraiment basique, de chez basique, comme on dit. Permettez-moi de la poser quand même. On est entre nous, on est dans notre communauté, donc je me permets de vous la poser, Erim Ghleb. Donc, dentiste, hypnothérapeute, comédienne, metteur en scène. J'aborde même pas le volet personnel. Comment on arrive à faire tout ça, en fait? C'est ça la question la plus basique.
Alors, l'organisation, l'organisation, nous avons des temps dédiés pour chaque chose qui nous tienne à cœur dans la vie professionnelle, parce qu'il y a aussi quand même le volet personnel qui est important.
Bien sûr.
Bon, mes enfants sont grands, donc je dispose d'un temps plus souple pour faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, on va dire, en dehors de mon activité professionnelle. Parce que finalement, l'activité théâtrale, c'est pratiquement du semi-pro.
C'est ça, parce que vous donnez des représentations, en fait, c'est sérieux, c'est pas un hobby.
C'est un hobby, mais c'est sérieux.
Oui, c'est sérieux, voilà. Exact.
C'est sérieux. La différence, c'est qu'on n'est pas, on fait ça parce qu'on aime ça en tant qu'amateur, mais on est des semi-pros, on n'est pas payé pour ça. Et on le fait pas pour l'amour de ce que ça peut procurer de joie, de dépassement de soi perso et personnel, et puis pour les autres.
C'est vrai, en fait, c'est comme ceux qui sortent, qui vont courir un marathon. Vous donnez une pièce de théâtre.
Oui, exactement.
C'est ça. On n'est pas forcément payé. C'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi n'est pas forcément que physique. Il peut être physique, intellectuel.
Émotionnel aussi. Parce que vous savez, l'émotion, c'est quand même beaucoup. C'est tout.
Une pièce de théâtre que vous avez jouée récemment, elle tourne autour du couple, c'est ça ?
Alors, la pièce de théâtre que j'ai jouée récemment, j'ai mis en scène une pièce de théâtre récemment qui s'appelle L'envers du décor, qui tourne autour du couple. J'ai, effectivement, la pièce de théâtre que j'ai mise en scène avant, qui s'appelle Parle-moi d'amour, parle du couple également.
Pourquoi justement cet intérêt pour le couple ?
Ah ben parce que c'est une relation qui est presque, comment vous dire, presque antinomique. Une relation de couple, c'est une relation qui est durable dans le temps, qui questionne dans la relation. Comment fait-on pour rester en lien, en couple, bien ? Qu'est-ce qui se passe dans une relation pour qu'on soit... qu'on puisse rester aussi longtemps ensemble. Comment fait-on ?
C'est une question que vous vous posez personnellement ?
C'est une question que je me pose de comment est-on dans une relation ? Plus elle est intime, plus il se passe des choses inconscientes. Qu'est-ce qui se passe dans une relation pour qu'elle puisse durer ? Comment fait-on pour être dédié à soi et à la relation pour qu'elle puisse être exister pour de vrai. Pas une façade, c'est pas pour la galerie.
Ouais.
C'est pour de vrai.
Ouais, mais j'aime bien en fait cette nuance que vous faites, celle de pour exister pour la relation et pour soi aussi.
Ah ben bien sûr, parce que être dédié complètement à l'autre, c'est s'oublier, c'est se nier.
Vous avez trouvé une solution, une esquisse de solution. Pour répondre à cette question, comment faire exister ce couple pleinement, cette relation pleinement, tout en existant soi ? C'est la question que se posent beaucoup de femmes et d'hommes qui suivent Femmes d'aujourd'hui et sa version homme, justement.
Ouais, ouais,
ouais. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous avez trouvé une piste, en fait ?
Ah ben, une piste, c'est d'abord parler. C'est la communication, c'est parler, c'est exprimer ce dont on a besoin, ses propres besoins. C'est savoir être autonome et savoir vivre seul. Avant de vivre avec quelqu'un, c'est de pouvoir fonctionner, être autonome tout seul, pour ne pas être à demander à l'autre de le sauver. Il y a une très jolie interview de Fabrice Lucchini qui dit « Moi, je ne veux pas me mettre en couple parce que je vais demander à l'autre de me sauver, et ce n'est pas possible.
» Bon, quand même, à son âge, il pourrait savoir qui il est, hein.
Oui, non, mais c'est aussi du show, c'est aussi...
Oui, absolument.
Mais il le dit, hein, il est tellement névrosé que vivre avec quelqu'un, c'est... Parce que quand on vit avec quelqu'un, on a longtemps... Enfin, quand on vit avec quelqu'un de manière intime, on a une espèce de régression. On va dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément... Quand on est avec des gens de manière moins intime.
C'est-à-dire qu'on se laisse aller ?
C'est-à-dire qu'il y a des choses de l'inconscient qui émergent quand on est dans une relation qui est longue et profonde, dans laquelle on retourne à un état plus enfantin, plus quand on était enfant. Dans certaines situations, quand on vit avec quelqu'un, on est un peu un enfant, un peu un adulte, un peu un parent... un peu tout ça en même temps.
C'est la vie, en fait.
Oui, tout à fait. On danse avec ça.
Ouais.
Et si on est coincé dans un des états, ça fonctionne un temps.
Alors, vous avez dit, c'est d'abord apprendre à vivre avec soi avant de vivre avec quelqu'un. Or, souvent, une relation amoureuse qui va... aboutir à une relation conjugale et donc à la vie à deux, à construire une famille, ça se fait autour de la vingtaine, début trentaine. Est-ce qu'à ce moment-là, je pose la question à la femme que vous êtes, je sais que vous n'êtes pas psychologue et on n'est pas là pour parler de façon scientifique, mais on parle de relations humaines. Est-ce qu'à cet âge-là, on se connaît vraiment, on sait vivre avec soi ?
Non. Je ne crois pas, mais vous avez beaucoup de personnes qui se marient plus tard que la vingtaine aujourd'hui, parce que c'est l'environnement qui veut ça. Et puis, on apprend à se connaître au contact des autres.
Absolument.
Quand on se marie, c'est quand on se marie ou quand on vit avec quelqu'un, on partage. c'est important de partager les mêmes valeurs. Mm. Alors, tomber amoureux, c'est une chose, ce n'est pas suffisant, on le sait.
Mm. Absolument. Vous avez ce genre de discussion avec vos enfants ?
Tout à fait.
Oui ?
Oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je suis psychothérapeute.
Absolument.
J'ai toujours été très curieuse du fonctionnement de l'humain. Oui, je parle de ça avec mes enfants. Bien sûr, j'en parle.
Et ils en pensent quoi, justement ? Est-ce que ça leur donne plus de liberté, de morale, de pouvoir faire leur choix, ne pas rentrer dans les cadres de la société, telles études finir, tel travail finir, rentrer dans une relation à tel âge, etc. Est-ce que ça leur donne plus de liberté morale et mentale ?
Ben écoutez, je l'espère. Je suis pas eux. Je l'espère. Je l'espère que ils abordent la vie avec la capacité d'avoir un peu de réflexion et de philosophie et de recul pour se dire et puis de relation à soi, de relation à leurs propres émotions pour pouvoir se dire ça c'est bon, ça c'est moins bon.
C'est une forme de réussite parentale aussi de se dire j'ai réussi à donner cette liberté à mes enfants.
En tous les cas, j'ai réussi à leur donner cette réflexion.
Ouais. Absolument.
Et j'espère qu'ils en feront une liberté de vivre et de fonctionner comme il leur semble bon pour eux, d'abord. Parce qu'on est en contact d'une société, oui. L'appartenance au groupe, c'est très important parce que si on n'appartient pas au groupe, eh bien, on a un vieux réflexe de l'homme de Cro-Magnon d'appartenir, l'appartenance au groupe, c'est un besoin fondamental, c'est plus qu'un réflexe, c'est un besoin fondamental, mais on peut appartenir au groupe jusqu'à une certaine limite et puis avoir sa propre vie, ses propres choix.
Rim Ghlab, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine, ça a été vraiment un plaisir.
Merci
de
beaucoup.
De partager ce moment.
Mais merci infiniment pour votre confiance. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.